journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, l'exécutif qui choisit l'épreuve de force sur sa réforme des retraites. Les grèves vont donc continuer et même se durcir, avec des usagers qui toutefois prennent leur mal en patience. Reportage à suivre, Gare Saint-Lazare. À suivre également, des Algériens appelés aux urnes aujourd'hui mais qui n'iront pas voter, nous serons sur place. Un ancien Premier ministre qui fait son retour, premier discours public depuis 2 ans de François Fillon. Et pour terminer, la vague d'Okuzai, en vrai, pas en poster, des estampes japonaises exposées dans le sud de la France.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF.
France Inter.
Et direction pour commencer, Sébastien, une gare parisienne où les usagers se préparent à une grève qui dure.
Aucun apaisement après les annonces du Premier ministre, mais au contraire une crispation qui s'étend, surtout donc dans le secteur des transports. La CGT Cheminots appelle à renforcer la grève à la SNCF. L'UNSA veut installer la mobilisation dans la durée à la RATP. Résultat, les prévisions de trafic pour ce jeudi sont quasiment les mêmes qu'hier. Un TGV et un Transilien sur 4, 10 lignes sur 16 du métro parisien encore fermé et très peu de RER. Bref, c'est loin d'être la fin de la galère à pied, à vélo, dans les bouchons, dans les métros bondés, des journées noires en perspective qui pour autant n'inquiètent pas les passagers, qu'a rencontré notre reporter Rémi Brancato à la gare Saint-Lazare.
Depuis une semaine à Saint-Lazare, c'est devenu une habitude pour Isabelle.
Ça fait exactement 45 minutes que je suis à la gare.
Cette habitante du Val-d'Oise met 2 à 3 heures, 2 à 3 fois plus de temps pour venir et rentrer du travail à Paris et pourtant, elle soutient la grève.
Nous, citoyens, on comprend. Mais eux, là-haut, non, ils sont sourds. Vous m'excusez, mais je dois courir voie neuve parce que ça va être blindé.
Même scène devant la gare aux arrêts de bus avec des agents RATP pour orienter les voyageurs.
Donc là, je croisais les doigts pour avoir un bus pour la gare du Nord, mais il n'y en a pas. C'est comme ça depuis une semaine. Je suis d'accord avec le combat qui est mené actuellement, mais ça devient très fatigant.
Et après les annonces du Premier ministre pour Julie, c'est le gouvernement qui est responsable du blocage.
Je pense que le mouvement va se durer et qu'on en a pour un petit moment.
Et chacun y va de son pronostic, comme Cyrine qui marche sans se plaindre.
Minimum 3 mois, je pense que ça va continuer comme ça les grèves. Si là, le gouvernement ne change pas d'avis, bah, ça va aller plus fort.
Et pour Olivier qui sort d'un bus, les voyageurs sont préparés.
Sur la ligne 32 qui était pourtant remplie, les gens étaient prévenants, bienveillants. Étonnamment, je trouve que ça se passe plutôt bien. Là, je crois qu'il y a un enjeu que la grève tienne massivement jusqu'à Noël. Le moment où ça va se jouer, c'est est-ce que les flammes repartent le 3, le 4, le 5 janvier.
Et d'ici là, à la RATP comme à la SNCF, les syndicats appellent à durcir la mobilisation.
Le reportage à Saint-Lazare de Rémi Brancato.
Les annonces d'Edouard Philippe hier, Sébastien, font donc ce matin l'unanimité syndicale contre lui.
La CFDT, qui défend pourtant un système de retraite par points, a finalement décidé de rejoindre le mouvement de manifestation de mardi prochain, le 17 décembre. La CFDT qui s'oppose à l'instauration d'un âge d'équilibre à 64 ans à partir de 2027. Laurent Berger demande clairement au gouvernement de revenir en arrière. D'autant qu'il reste beaucoup de questions encore en suspens, malgré quelques concessions comme le décalage de la réforme à la génération 1975. On sait peu de choses encore sur 3 points essentiels. L'élargissement des critères de pénibilité, la revalorisation des salaires des profs ou le rythme de la transition pour les régimes spéciaux. Les précisions d'Hélène Philly.
La principale concerne les transitions. On a compris que pour les régimes spéciaux, par exemple, l'entrée en vigueur de la réforme se ferait un peu plus tard. À la SNCF, ce sera à partir de la génération 80 ou 85 selon les postes. Les compensations par secteur, par métier, sont renvoyées à des négociations d'entreprise pour être ensuite définies par ordonnance. On a les devoirs et pas les droits, traduit un syndicaliste remonté. On n'a pas de détails, par exemple, sur les revalorisations des enseignants. Trop peu d'annonces également sur la pénibilité, disent les syndicats. Peut-être pour laisser la porte ouverte à la négociation. On sait que le compte professionnel de pénibilité sera étendu à la fonction publique et aux régimes spéciaux, 250 000 personnes supplémentaires. Pour le travail de nuit, les seuils seront baissés. C'est un peu court pour les syndicats, dont la CFDT qui réclame le retour des 4 critères disparus au début du quinquennat.
Hélène Philly du service économique de France Inter. En attendant que le dialogue reprenne, rassemblements et manifestations locales sont prévues aujourd'hui à Paris, Nantes, Toulouse, La Rochelle ou Bordeaux. Nous partons maintenant pour un autre pays en pleine ébullition, l'Algérie, secouée depuis près de 10 mois par des manifestations contre le régime en place. 24 millions d'Algériens appelés à voter aujourd'hui, une élection présidentielle voulue par le pouvoir et par l'armée, avec 5 candidats, tous plus ou moins proches de l'ancien président Bouteflika, mais une élection totalement boycottée par la rue, au point qu'on s'attend à une abstention record. Reportage dans le quartier populaire de Belcourt, sur les hauteurs d'Alger, de notre envoyé spécial Mathilde Dehimi.
À Belcourt, aucune affiche de campagne sur l'artère principale. Idriss revient d'un dernier rassemblement spontané avant le scrutin. Il note un changement d'attitude de la police.
À partir de vendredi passé, ça commence à s'empirer. Plus que le vote se rapproche, plus il y a des arrestations. Moi, je n'ai pas pris de coup, mais... J'ai eu de la chance, on va dire. De toute façon, le peuple, il ne va pas reculer. Je ne sais pas ce qu'il veut, ce système.
Lui ne votera pas, tout comme Lina, 22 ans, qui n'accordera sa confiance à aucun des 5 candidats.
Ils font partie, mais là, ça va.
Les candidats faisaient partie du même système que les 2 anciens premiers ministres qui viennent d'être condamnés à de la prison. Donc, tout le régime est pourri de l'intérieur. C'est pour ça que je ne suis pas convaincue par ces élections.
Mais tous ne sont pas des fervents défenseurs du mouvement pacifiste Irak. Akram et ses amis, désabusés, rêvent toujours de quitter l'Algérie.
J'en ai rien à foutre.
C'est tout.
Parce qu'on ne va rien gagner et que l'Algérie va rester telle qu'elle est. Le régime n'est pas le seul responsable. On est aussi responsable. On aurait dû s'investir il y a bien longtemps.
C'est bon.
Une attitude que regrettent certains, persuadés que les changements se feront sur un temps plus long, bien au-delà de cette élection présidentielle. Alger, Arthur Gerbeau, Mathilde Dehimi, France Inter.
Un autre scrutin à surveiller également aujourd'hui, les élections britanniques, ouverture des bureaux de vote. Dans 1 heure, aux États-Unis, en bref, toujours rebondissement dans l'affaire Weinstein, le procès pénal du producteur américain à l'origine du mouvement MeToo aura bien lieu le 6 janvier prochain, poursuivi pour des faits d'agression sexuelle à New York. En revanche, Harvey Weinstein a trouvé un accord au civil, un accord avec une 30aine de victimes qui, contre le versement de 25 millions de dollars, devront mettre un terme à leur poursuite.
Il est 7h37, on en vient, Sébastien, à l'une des images politiques du jour. C'est le retour de François Fillon sur scène.
Un retour sur la scène du Palais du Luxembourg. Après quasiment 2 ans d'absence, l'ancien candidat LR à la présidentielle organise un colloque au Sénat en tant que président de l'association Agir pour la paix avec les chrétiens d'Orient. À moins de 3 mois de son procès pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux, l'ex-premier ministre veut faire parler de lui autrement. Un discours à forte consonance humanitaire, mais qui aura bien du mal à faire oublier des discours plus anciens et terriblement d'actualité, Maxence Lambrecq.
François Fillon est déjà de retour sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines avec cette archive très corrosive. En 2016, il parlait réforme des retraites.
Le système de retraite par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions.
Toute la gauche relaie donc ses propos, alors qu'à droite, chez ses anciens amis, on n'a pas du tout apprécié son cynisme à la télé suisse en octobre dernier.
Je vais être un peu prétentieux, mais quand j'étais ministre des Affaires sociales, j'ai fait une réforme des retraites, j'ai mis 2,5 millions de personnes dans la rue. Macron, c'est un petit joueur à côté.
Cette mauvaise sortie prouve qu'il a lâché la politique, commente un député LR. En effet, François Fillon n'entretient plus aucun réseau, à part dans le sport automobile, mais il peut toujours compter sur son ancien bras droit, le sénateur Bruno Retailleau, co-organisateur du colloque.
Il a voulu lancer cette fondation pour aider les chrétiens d'Orient, parce que ce qui se passe aujourd'hui, pas seulement au Proche-Orient, mais en Afrique, je pense au Nigeria, est catastrophique et on a des massacres de grande ampleur.
Se lancer dans l'humanitaire pour faire oublier son agenda judiciaire et sa mission très lucrative dans un fonds d'investissement, François Fillon espère aujourd'hui lever plusieurs centaines de milliers d'euros pour constituer sa fondation.
Maxence Lambrecq, le retour de François Fillon, on y revient également sur le site franceinter.fr. Un mot de sport, un festival de buts hier en Ligue des Champions avec un PSG irrésistible et intraitable. Le club parisien, déjà qualifié pour les 8e de finale, termine sa campagne des poules de Ligue invaincue hier soir. Paris a surclassé les Turcs de Galatasaray 5-0, but d'Icardi, Sarabia, Mbappé, Neymar et Cavani. Il y en a eu pour tout le monde. Pas de miracle pour Clémence Calvin, l'athlète française a écopé enveloppée de 4 ans de suspension dans l'affaire du contrôle antidopage qu'elle est accusée d'avoir fui. C'était en mars dernier à Marrakech. Mais elle a immédiatement annoncé qu'elle ferait appel devant le Conseil d'État.
Et pour terminer, un beau cadeau de fin d'année, Sébastien. Les plus belles estampes japonaises exposées à Aix-en-Provence.
Un trésor de 150 estampes actuellement exposées en effet à l'hôtel de Caumont avec des œuvres signées Okuzai, Hiroshige, Utamaro, les grands maîtres de l'estampe japonaise. Des estampes qui font partie de la collection Georges Leskovitch, amateur d'art d'origine polonaise. C'est l'une des plus importantes collections privées du monde de cet art. Un pur régal, Isabelle Pasquier.
La vague d'Okusai, on l'a eu en poster dans notre chambre d'ado et c'est un choc de beauté de voir ce tirage original. Cette vague, chef-d'œuvre, image iconique, avec ces minuscules pêcheurs sur leur barque, si fragile devant cette force de la nature. Image de l'impermanence de la vie, la vague fait partie des estampes ukiyo-e, qui signifie le monde flottant, comme cette vue du mont Fuji et ses dégradés de bleu. L'exposition montre aussi des estampes d'Hiroshige, délicatesse de paysage, un lac paisible avec des cerisiers en fleurs ou encore des scènes de pluie avec des gens qui courent sur un pont en pleine tempête. Georges Leskovitch est un collectionneur heureux de partager ses trésors.
Hiroshige, c'est le maître d'impressionnisme. C'est comme ça qu'il était considéré par les impressionnistes occidentaux. D'Hiroshige, Van Gogh, il a copié énormément des scènes de composition. Les images de neige, de la pluie, c'est les spécialités d'Hiroshige. Vous voyez, on voit les intempéries, l'hiver, la neige qui tombe, le vent, on sent même la neige grincer.
Dans l'expo des surimono, des estampes précieuses à tirage limité, dont des estampes érotiques. Et pour les voir, il faut se cacher dans une alcôve derrière un rideau. Donc je ne vous en dirai pas plus.
Voilà, Isabelle Pasquier, derrière un rideau, exposition de 120 estampes japonaises à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence jusqu'au 22 mars.
Merci Sébastien Legénie.